Tout d'abord, bonjour.
Je vous remercie d'être venu à la rencontre de la Course au Bonheur, l'histoire des vies gays sur votre table de table, d'avoir ainsi contribué à ce moment de partage, car comme vous le savez, on n'est quasi rien sans les autres. Et accepter ce pari assez fou, car le récit en est un bel et bien. Écriture nomade qui ose aller voir de l'autre côté de l'écriture et de la vie, laquelle est rarement droite comme un i, tentant de la faire surgir telle qu'elle est enclose dans les mots, dans sa grande fragilité, à l'image des personnages qui, une fois brisé la croûte dure de la terre, comme celle de la langue, brillent de mille feux. Écriture inclassable donc, queer ou tout ce que vous voulez, qui s'efforce de fusionner les styles et les genres, ceux de l'écriture, ceux de la vie tout autant, et joue la carte de la calédémisme avec ses notes, puis, bravant les dictats où l'on tente trop souvent encore de nous limiter, de nous incarcérer, va son chemin à la traverse de la vie, la mienne, mais la vôtre tout simplement. Avant de céder la parole à mon amie Anne, inventrice infatigable avec son projet multiforme, à l'image du champignon le Pilobolus, Martin's Edition, à mon compagnon Philippe pour leur mise en voix, ainsi qu'à Richard, dont le dialogue guitariste est pour moi une totale découverte, je veux les remercier car c'est eux trois, pleins d'enthousiasme, qui ont porté la lecture telle qu'elle est et que je vais découvrir avec vous. Qu'ajouter ? L'émotion de me retrouver ici avec vous, dans ce havre de paix que je fréquente depuis si longtemps, comme lecteur et comme agent. Pour conclure, je veux remercier très vivement et du fond du cœur Janina Ben Slimane, ici présente, qui a accepté avec une immense spontanéité de m'accueillir pour ce moment de partage et d'échange avec vous. Merci.
Je décide de dîner au Vieux Casque, notre cantine à Saint-Germain-des-Prés, ou venir sans trop de façon. Je prends place et observe détachée la population plutôt raréfiée, déjà installée dans la petite salle. Un homme jeune, le sourire avant tout, accroche mon regard, s'encadre entre les montants de l'escalier. Je l'invite à partager ma table. Peu de jours après l'inhumation, je reviens hanter ces lieux entre amis. Je n'étais jamais revenue au Vieux Casque. Les souvenirs affluent, alors, bruissants, des battements d'ailes par myriades, vaporeux, comme les vols des mouches de mai sur le miroir de C en Varée au pays de Courbet. Ni fadeur aucune, ni nostalgie, une vraie source. Notre dialogue a révélé très vite ce qui a donné forme et consistance à l'existence quotidienne. On a constitué continuellement le cœur vibrant. La conversation roule d'abord à bâton rompu, en forme de découverte, puis, hasard incroyable de la vie, dévoilement, motif inattendu, de convergence, mainte connivence. J'aime beaucoup la rue, tu sais, la drague urbaine, et lorsque je suis entrée aux ronces, où la première fois c'était exactement ce que je recherchais, ah tiens, et on ne s'y est jamais rencontré, j'aimais beaucoup moi aussi. Ainsi commence ce périple, alerte au cœur de ce qui est l'une des grandes, sinon la passion de ce voisin de table, la littérature. Périple à la Joseph de Maistre, et voyage au long cours, tout d'imagination où il fait vivre et revivre bien des écrivains, originaires majoritairement de l'Europe du Nord, et dont les œuvres et leur lecture vont constituer tout à la fois l'occupation professionnelle et, plus encore, être l'un des fils rouges de l'existence. La petite salle, basse de plafond, s'anime, bondée bientôt de toutes ses présences. Une société invisible, le comble de l'élégance, intellectuelle et morale. La scène est des plus amusantes, vu ce qu'elle a d'atypique. Car pour une drague, elle se pose là, il faut bien le dire. Le salon le plus en vogue, qui transcende le temps, et crée avant tout les constellations nécessaires, qui composent ce paysage intérieur qui se révélera plus tard si essentiel, et sera comme une famille d'esprit, où il puisera avec constance la force de résister, de dire oui à la vie. Certains noms familiers, Nocturne Song, Hans Wickert, pour les enfants Jérôme, un somptueux livre forestier qui se déploie parmi les paysages de la Poméranie. Hermann Hesse aussi émaille la conversation. D'autres plus intimes reviennent par intervalles réguliers. Alfred Döblin, Gérard de Nerval, une des lectures les plus familières, au point de refaire à vélo une pérégrination flâneuse qui prenait à plaisir tout son temps, car c'est où il avait des grands mains. À l'occasion de promenades touristico-itinéraires avec culture à l'appui, lesquels découvraient étape après étape ce tendre pays du Valois. Puis René Daumal, Anna Akhmatova, Ossip Mandelstam, Stieg Dagerman, Georges Trakl et Friedrich Oderlin, deux poètes dont il récite en allemand quelques vers qui puis les traduit et en commente les mots qui le touchent. Deux hommes, qu'est-ce que ces deux pauvres fous, maintenant concentrés, proches, à se toucher, front contre front, ou tout comme entier à cette récitation de la plus haute poésie, oublieuse totalement du cadre et de l'ambiance, si bon enfant, en perdant alors le boire et le manger, mais que les vertures de pain et vin d'Oderlin rassasient amplement. Celui qui, tout aussi charmeur soit-il, n'est pour encore qu'un convive, s'anime, s'échauffe, les mains qui la mouvantent soutiennent et accompagnent, comme la baguette du chef d'orchestre qu'il est, sa parole devenue torrentueuse. Le visage s'éclaire, la voix est chaude, libre, passionnée, tour à tour. La tristesse s'est maintenant totalement estompée.
C'était il y a longtemps. L'heure n'est plus, l'a-t-elle été jamais, au reniement, au déni de soi, c'est l'heure. Y a-t-il eu jamais rien à cacher ? Nous sommes nombreux et si nombreux à avoir connu et connaître ce moment, cet avènement. Psychodrame, cris, scène et larmes, jusqu'au déchirant parfois, vous vous les rappelez sûrement, pour ne pas aller à plus dramatique. L'ensemble des associations qui luttent avec détermination aujourd'hui contre cette peste, l'homophobie, en sont plus que jamais saisis. Tous les clignotants et marqueurs sont au rouge de la haine, décomplexés, de la braise. Le mec, il traverse la rue, ni une ni deux sous le regard des passants, impassible. Qu'est-ce que t'as reluqué? Baisse les yeux, ta fiole. Coup de boule en pleine tête. C'est ça, l'homophobie décomplexée. Pensez aux dernières agressions. Mettez en parallèle le travail, le soutien essentiel du refuge, sans parler des suicides. La démarche politique de la visibilité, n'est-ce pas exprimer sous une forme différente cette question fondamentale? M'aimez-vous? Mais bon sang, m'aimez-vous? Aïe, 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 mes aïeux, quand dans la fratrie, on occupe la place assignée disciplinairement du vilain petit canard noir. Des histoires morales enfantines, avec pour corollaire logique tous les comportements et drames induits, dont la société, justifiée dans ses invectives, se lave ensuite hypocritement les mains. Où s'explique la violence qui accompagne presque toujours ce moment décisif de la vie? Un tournant, avec sa réplique si fameuse, donc rétorquée, laquelle sonne comme un slogan. Famille, je vous hais. Enfin, moi je manque, le courage m'ayant déserté, l'espace aussi fugace soit-il de l'instant, battre en retraite. Et la phrase laissée en suspens flotte dans le silence médusé, va mourir inachevé sur mes lèvres. J'ai une image qui surnage. Je me rappelle un visage, celui d'une amie, petite bonne femme, parigote jusqu'au bout des ongles et parleuse avant Marguerite Duras et Xavier Gauthier. J'accroche son regard, ma planche de salut. Je comprends. Je ne peux plus reculer. De toute façon, j'en ai marre du secret. Et y en est-il pas de polichinelle? J'aurais reculé? Jamais plus, sans doute. Je n'aurais osé regarder les yeux dans les yeux tous ces garçons, tous ces hommes que je dis aimer. Car jamais il n'y a de honte rouge au front à proclamer son attirance, son goût, aussi minoritaire soit-il, considéré au mieux, ostracisé au pire. Ils ne sont nullement un détail, loin de là. Vas-y, petit gars. N'est-ce pas cela, d'une certaine façon, ce dialogue secret, muet, que nous menons entre quatre yeux? Je pédale, ça patine. Puis je prends mon courage à deux mains et jette ex abrupto ces mots, porteurs qu'ils sont, à mon corps défendant de la discorde sur le grand théâtre de la vie. Je suis amour. À ce moment, ne suis-je pas le paria banni hors les murs de la cité? Ça patine, ça pédale. Pour un peu, je lâche prise et invente un amour plus conforme. Et merde, j'en ai marre vraiment du secret. Non, j'aime un garçon. Une mouche, vous l'eûtes entendu voler. Je suis là, acteur de ma vie, engagé dans la scène. J'ai 21 ans, la majorité à l'époque. Et toutes mes illusions, patatras, je n'ai pas avoué. J'ai dit sans plus, je suis amoureux d'un garçon. Mais cela n'est pas une structure d'aveu. Je repense à cette scène, cet avènement. J'en éprouve un bonheur profond. Thank you. du deuil.
Et les pièces paraissent vides, terriblement, où le soleil qui s'y infiltre n'adoucit rien. Sans doute ne fait-il qu'accuser encore la sensation, la morsure âcre de la vie, d'abandon. L'impression, accusée par le silence si inhabituel, perdure en dépit de l'envahissement médical que trahissent encore omniprésent le pied d'aperf, les draps sales qui rappellent quotidiennement tous ces jours où l'appartement fut un substitut de la chambre refusée à l'hôpital, avec une belle énergie ressurgie. Car il faut encore et toujours sauter à pieds joints dans la vie, ne pas capituler. Les chats, Juna et Patrocle, yeux noirs, yeux d'or, ombrageux, jalousement affectueux, lesquels te veillaient, qui, au mépris des risques de la toxoplasmose, occupaient bien trop souvent au goût des infirmières, ronronnement et voluptueux, la couette. Vous eûtes des mots, des chamailleries, comme un vieux couple. Puis vous vous êtes rabibochés, avez pris vos marques et étaient copains comme cochons. Evelyne, la présence, à toute heure, est toujours secourable. C'est pour toi. Tu ne peux pas rester comme ça, Benoît. C'est trop dangereux. Imagine que le taxiphone sur la place ne marche pas, surtout la nuit, et de me tendre un portable. Le premier que j'ai eu, jamais. Le geste autoritaire, impératif, presque, ça, c'est Evelyne. Puis adorable, de me faire le mode d'emploi. On en a parlé, tous. On est tous d'accord. On s'est arrangé. C'est assez dur comme ça, Benoît, sans en ajouter encore. Quelle angoisse. Dans les derniers jours, elle m'aidera, le regard habituel du professionnel, à comprendre certains signes, les marques de l'inéluctable. Là, ce n'est plus possible. Nous, on ne peut plus. C'est trop grave et dangereux, vraiment. Puis, elle se réfugie à la cuisine et s'effondre, détruite, une cataracte de larmes. Décidément, encore une qui pleure. Puis se ressaisit, ouvre son petit vanity et d'un geste rapide, un petit coup de rouge à joues, du rimel, histoire de se refaire, masque le mieux possible son désastre. Et celle-ci, Evelyne, telle que je l'ai connue dans son petit tailleur rouge à bretelles, vive, décisive, sa petite coiffure de boucle au burn, le visage de nouveau défait qui sanglote encore et encore. Il ne faudra pas chercher à nous revoir, c'est comme ça, tu sais, c'est un geste professionnel. Les amis, mon triangle de la fidélité, proche, plus que jamais indispensable. À l'émotion et au désarroi qui règnent dans les couloirs du service, aux yeux rougis des infirmières, un jeune ami, traducteur de fraîche date, comprend. Nous marchons côte à côte, je suis stone, littéralement. Nous rentrons à pied, j'avance par chaos, debout, un automate. Place des Vosges, Bastille, rue de la Roquette, place Montblanc, enfin, ouf. Une amie, lasse des trompe-l'œil, des fausses pierres et des stucs de tout style, abandonnera sans problème pinceau, couteau, brosse, toile, escabeau et autres échafaudages pour accompagner, soutenir, aider toujours. Ce fut le jour et la nuit, souvent. Un ange, je crois beaucoup aux anges. Le Triton, l'ami de toujours, connu dans l'aventure militante et la plus intime, traversera un jour Paris, séance de Nantes, pour voler à mon secours, au terme d'une nuit d'angoisse et de gossips affreux, nourri de bonnes sources. Je commence à comprendre. Nous sommes à quelques pas de la Bibliothèque nationale. C'est à peine si j'ai le cœur de grignoter le Paris-Beurre que je délaisse sur le coin de l'assiette. Cette fois, j'ai senti le vent du boulet, eu le soupçon d'événements graves. Un versant inconnu de la vie s'ouvre devant mes yeux. Je vis aux côtés d'un homme malade, cela je le savais. Mais sans plus d'emploi et sans plus d'espoir, où ces guerres, malgré la fiction plus ou moins savamment entretenue, l'ont retrouvée. Et par contre-coup direct, la mise à mort du personnage social, ce qui est loin d'être neutre. Cette fois, le danseur de cœur de Dionysien est à terre, victime d'un faux pas dont il ne se relèvera pas. Si les présences humaines, chaleureuses, tellement ont compté, que dire des livres, l'âme d'une existence en quelque sorte. La compagnie en fut faisant fi de fatigue oculaire tenace et de migraines récidivistes et rétives, à tout plus que jamais un baume, mais pour l'heure, je suis là. À tourner en rond comme un lion, pris au piège, au milieu des pièces vidées, qu'elles sont de la quasi-totalité des livres, dont je me suis résolue à me défaire l'un après l'autre, car le deuil est un acte. Je souhaitais simplement préserver quelques pierres de cette bibliothèque, ceux survivants de tous ces drames anciens avant la rencontre. Feuillets d'hypnose, le poème de Parménide, les filles du feu, la mort à Venise, tombeau pour 100 000 soldats, la destination de l'homme, les mémoires d'Adrien. Et l'usure et ses signes, pages cornées, annotations rares dans les marges, qui sont les us et abus marqués du temps, et la marque de cette tendresse profonde, laquelle vient repérer l'humain, et ce lien secret tel un fil rouge, marque de cette tendresse que l'on éprouve pour des êtres chers. Que dire de ceux que tu contribueras à éditer, dans le cadre de ta responsabilité des grandes traductions, une très belle collection chez Albin Michel. Ils sont les témoins fidèles de cet engagement militant de tous les instants. Pourquoi sinon ces batailles, pour eux, sans concession, sans crainte jamais de se retrouver sans emploi, par amour et vrai savoir de la littérature. Pour cela, j'ai l'attachement le plus marqué. Je choisis le château de la colère, le passeur de Chadong, les baleines de Wissico, l'armée des cendres, la chronique, la Zakuza, où non sera Steve Dagerman, Crack, le petit soldat du Hénan, je me souviens de Babylone, Gadorim ou le diable dans le tourbillon, les jardins de Sildar, les servantes d'auberge, la patience du brûlé. Il reste là, comme un signe conjuratoire de l'énigme la plus obscure de la destinée.
De Salon, les ballons de Tisbeau. L'armée des cendres, la chronique de la Zakuza, mon nom sera Steve Dagerman. Crac! Le petit soldat de l'Union, tu me souviens de Babylone. Gadorim et le diable dans le tourbillon. Les jardins de Sildar. Les servantes d'auberge, la patience du boulot. Le peuple de Parménide, le type du feu. La mort à l'église. Tombeau pour 100 000 soldats, la destination de l'homme. Les mémoires d'Adrien.
L'hymne à la vie.
Longtemps j'avais marché à l'ombre de la mort. Longtemps, oui, trop longtemps. Ne dit-on pas, une hirondelle ne fait pas le printemps. Longtemps je me suis rebellé contre la petite mort au désir, jusqu'à l'insoutenable par moments, la livre de chair inerte totalement. Il y a des choses comme cela dans la vie. Là, sur un coin de trottoir, un peu en retrait, un homme, à califourchon sur sa moto, une virago, casque à la main, regarde, puis attrape au vol mon regard. Mais je file toujours sur mon air, puis je fais enfin la pause et regarde à mon tour. Un homme dans la maturité, très sec, le visage en lame de couteau, un anneau à l'oreille, on se sourit. Des rencontres comme cela, c'est la banalité, surtout au cœur du vieux village. À ce moment-là, je souris et plante là tout à fait cessante les activités qui, quelques minutes plus tôt, étaient si pressantes. Parfois, le coup de tête bienvenu fait que l'on saisit sa chance. L'inconnu dit s'appeler Christopher. Viens, c'est à deux pas, nous boirons un thé bien chaud. Pour ensuite faire plus ample connaissance, très intime, chaleureuse, charnelle. Une fois revenu de cet entre-deux du monde, cette parenthèse si vivante, charnelle, je lui offre mon dos qu'il masse, où il chasse définitivement ce poids de la mort en moi, que je m'efforce de liquider, mais en vain pour encore. Puis je sens la livre de chair qui vibre de nouveau. Je pense à la fonte des neiges, le dégel au bord de la Maria, dans le Morvan, où j'ai si souvent guetter les signes imperceptibles de la vie qui reprend ses droits. Je revis. C'est le souffle puissant de la vie qui passe. Et oui, parfois il arrive qu'une hirondelle fasse le printemps. Ça frémit, ça vibre, la terre commence à craquer. Alors, une hirondelle ne ferait pas le printemps? Encore que c'est si étrange. Et oui, ce petit oiseau, 2,50 grammes, quelques petites plumes ébouriffées, puis soudain les éclaboussures, le soleil plein la tête au cœur du ciel, un geste inconnu, magnifique et courageux, m'a arraché de la monotonie et mis pour toujours le sourire au fond du cœur. 2 minutes plus tôt, je n'en menais pas large. Puis c'est ça le souffle puissant de l'existence qui passe et qui libère le cœur sur cette ligne qui va du sexe à l'esprit. Et le sang afflue au visage et fait de nouveau vibrer ce vierge, ce vivace et ce si bel aujourd'hui. En respect du serment, promets-moi, il faut vivre, ne pas capituler, sauter à pieds joints dans la vie. Celui-ci est un buveur de Loire, puissant, tranquille. Je suis dans l'œil du soleil. Date villa, haute ville à Ibiza, dans les lumières d'août et les crépitements de ces feux d'artifice qui embrasent le ciel et la mer et font les jeux d'eau dont les Espagnols ont le secret. Au milieu des garçons sauvages et des tribus de la nuit où ça vibre, oui, il faut jouir de l'existence comme l'un des plus beaux fruits de la vie, sans craindre jamais d'explorer les cadres du dire et du penser pour donner un sens nouveau aux mots de la tribu. La truite de Noailles.
Que dire ? Du miroir de Séanvaré, admirable à l'aube et à la brune, au pays de Courbet, un des sites jurassiens qui dégage le plus ineffable sentiment de poésie, de valserine, de l'oignon, petit ruisseau sauvage et secret, que l'on remonte à la traque des truites, du saut du goulou en Morvan, au milieu de ces pierres noires, dans toutes ces contrées montagnardes que colonisent des conifères, qui leur confèrent ces couleurs d'eau forte et font des bleus à l'âme, dont l'évocation est pur bonheur. Tel ce séjour dans la région d'Ornan, échappée belle. Nous sommes dans le bleu du ciel, souvenir, souvenir. La descente peu engageante aux sources de la Loue, un chaos tout en brutalité, majestueux, tellement dans ces rochers noirs, tiens donc. Mais sont-ce les sources de la Loue, ou non moins célèbre et dramatique, poétique, hautement, le saut du goulou. Dans un tumulte assourdissant d'écume blanche et dont les cataractes et les bouillonnements sont d'une puissance et d'une violence sans pareille, tout paysage fortement imprégné de romantisme, les réminiscences de la peinture de Caspar David Friedrich ne sont pas loin. Nous passons de longues heures sur la rivière, vrai pays de cocagne, singulièrement pour les moucheurs qui guettent, inlassables, les gobages et patiemment fouettent pour poser, geste artiste, ces trompe-l'œil issus d'une science immémoriale, faite d'un mélange d'observations entomologico-halieutiques patientes et de la plus extrême adresse manuelle. Encore faut-il savoir fouetter, cela s'apprend. Une fin d'après-midi ensoleillée, attirée par une sente qui mène au rive de la Loue, en contrebas, nous faisons halte au pied des hautes falaises blanches et massives de Noailles, où elles coulent larges et opulentes. On en distingue inquiétant et violent les tourbillons d'agates vert-amandes, des herbiers de myriophylles, constellés des myriades de leurs minuscules fleurs blanches, gagnant le milieu des eaux, enfoncés à mi-hanche au point de faire partie du paysage et de la masse mouvante qui dessine des remous peu engageants à couleur d'huile verte, l'amie pêcheur commence à lancer, léger, léger, si léger tellement. Le nylon aérien, palpable fil de la Vierge, s'envole, puis plonge, imperceptible, pouf, 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 sans relâche, au milieu des herbiers. Patience, patience, la pêche, c'est une école de la patience. Non, décidément, ça ne mordra pas, ça ne mordrait pas. On va faire vaudouille, demain, peut-être. Lassé de la longue attente, je rêvasse, à l'ombre des aulnes, visant la course amoureuse. Tout vin, la canne vibre. Les sillons de bambou refendus, vifs comme l'éclair, toi, jusqu'à l'eau. C'est le ferrage, qui demande rapidité et dextérité. Sinon le poisson décrocherait, puis, rendu prudent à la morsure douloureuse, de l'hameçon fatale n'y reviendrait pas de sitôt. Dans une gerbe d'eau écumante et crémeuse, une truie dodue diaprée, dans les rayons du soleil, quitte pour toujours le royaume des eaux.
Comme le meurtre commence toujours à la cuisine, comme l'a si bien décrit Alice Toklas, la petite truite bleue tachetée, cette fraise du règne animal, modeste, délicate et parfumée, si bellement décrite par Gérard de Nerval, un mets de roi littéraire nous est servi le soir même au bleu.
Le bleu de l'âme dans le dos, et cette lame dans la neige, pour des morsures à la fonte, et le printemps se désagrège. Longtemps je marche sans décompte. Le bleu de l'âme dans le dos. Le bleu de l'âme dans le dos. Le bleu de l'âme dans le dos.
Longtemps j'avais marché à l'ombre de la mort, je pense à la poudre de neige, je suis dans l'aile du soleil. Longtemps j'avais marché à l'ombre de la mort, je pense à la poudre de neige, je suis dans l'aile du soleil. Longtemps j'avais marché à l'ombre de la mort, je pense à la poudre de neige.
Le bleu de l'âme dans le dos. Le bleu de l'âme dans le dos. Je suis dans l'œil du soleil. Captif et fait comme un rat. Et maintenant je me réveille. La vie qui reprend ses droits.
Merci, je trouve ça magnifique. Je suis super. Je l'ai donné et voilà. C'est ça, c'est ça. Et je voulais vous remercier. tous et toutes d'être venus. C'est merveilleux. C'est quelque chose de... un don et puis un retour.
J'ai peut-être un petit mot, moi, alors, du coup, tout le monde va s'autoriser à parler. Voilà, nous avec Anne, Mars, donc, on fait les manies de Mars, et c'est vrai que notre démarche au niveau des dialogues est proche de la littérature. Donc, du coup, quand on a reçu le texte de Benoît, et quand il nous a proposé voilà, cet accompagnement, on a tout de suite pensé à un dialogue, bon, puisque c'est son fait. Donc c'est vrai que le texte de Benoît nous touche particulièrement. Voilà. Au-delà de l'histoire, au-delà de c'est vraiment voilà, la littérature et la façon d'écrire qui est super inspirante. Il faut que tu le saches, hein, Benoît. Ça inspire beaucoup ta façon d'écrire. Et voilà. Et donc c'est un début de dialogue en fait, hein, parce que on a donc une maison d'édition, Martin's Edition, avec Anne. Et c'est vrai qu'on a un autre texte aussi. Sur lequel on travaille en ce moment. Donc en fait, on est voilà, c'est un projet qui commence à prendre forme. Et là, vous avez vu en fait les prémices avec une part d'improvisation aussi des choses qu'on fera sur le prochain texte. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup Janina de ton accueil. C'est super agréable. Voilà, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. C'est très bien de venir chez vous. C'était chouette. Merci beaucoup.
Et alors, pour parler de l'écriture, de la course au bonheur, peut-être que je parle au micro.
Non, on t'entend, Nina.
Benoît,
Donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais c'est surtout, ben moi je peux parler, mais oui. C'est surtout pour les personnes. Si vous articulez à peu près, je vais y arriver. S'il y a des... Ce que je vais vous expliquer peut-être pour lancer un peu les choses... En fait, c'était un texte que j'ai écrit à l'époque du décès, donc il y a 20 ans à peu près. J'avais compris une chose, c'est qu'il fallait que je fasse le deuil. Parce que pour moi, le deuil, c'était pas... J'avais compris quelque chose, c'est pas comme ça, ça se fait pas comme ça. Et je me suis dit, il faut poser un acte, il faut faire quelque chose. Et il y avait... C'est une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est quand je suis allé voir l'acte de décès. Et à ce moment-là, ça m'a fait titre, j'ai dit, mais... En fait, on est dans la vie, un acte de naissance, un acte de décès. Et donc, effectivement, les mots, je me suis dit, ben oui, il y a des actions à faire. Et pour moi, la première action, je me suis dit, le meilleur moyen pour se libérer, comme j'avais l'habitude un peu d'écrire, je me suis dit, il faut que j'essaie de le sortir de mon corps, pour le mettre vraiment ailleurs, pour pas être encombré, pour pouvoir rencontrer à nouveau des gens, des amis, des femmes. J'ai d'ailleurs, parce que c'était une thématique du livre dont on n'a pas beaucoup parlé, il se trouve que c'est beaucoup, beaucoup le monde lesbien et féministe qui m'a formé. C'est une chose dans ma vie qui a été comme ça, mais j'ai toujours été beaucoup plus proche des problématiques, des questionnements. En tout cas, je ne les ai pas copiés, mais je m'en suis inspiré. Et c'est quelque chose qui m'a toujours... Parce que j'ai toujours été en pétard contre, même dans le milieu gay, les positions de pouvoir. Et il y en a beaucoup, et moi j'en ai beaucoup, beaucoup pâti. Je m'en suis dégagé, c'est pour ça que j'ai vécu beaucoup hors de Paris, que j'ai fait beaucoup de choses aux autres, mais c'était un peu ça l'idée. Et donc à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire, peu à peu, je me suis dit, mais attends, comment tu t'es formé, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu penses ces choses-là, pourquoi tu te situes comme ça par rapport à telle et telle question. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi des notes, dont quelqu'un qui travaille dans la presse, on va dire... gay mais média, informatique a dit qu'effectivement j'avais tenté de montrer un peu pour des gens qui ne connaissaient pas, c'est normal qu'ils sont plus jeunes, d'où on venait toutes et tous. Parce que pour moi il y a quelque chose aussi, je ne dis pas que tout est la même chose, il n'y a pas de continuum, mais quand même les êtres, qui qu'on soit, on aurait tous pu écrire un livre d'une vie, on a tous quelque chose à écrire dans la vie. Ou à peindre, pourquoi pas, ou à chanter comme fait Richard, mais on a tous, il y a les inconnus, les gens heureux ont des histoires, comme les autres. Il n'y a pas que les gens célèbres. Et ça pour moi, c'est tout ça qui m'a mené. Et puis après, effectivement, une chose, à un moment, je me suis senti libéré. Deux ans, j'ai écrit pendant deux ans, j'ai tout laissé tomber, j'ai tout mis dans un carton, j'ai tout flanqué à la cave. Et puis, il y a quelques années de ça, un ami à moi me dit, tu sais quand même, c'est dommage. Et quand j'ai repris les manuscrits, je me suis dit, c'est chiant comme la pute. J'y arrivais pas du tout. Je me dis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et puis j'ai eu un soir, une chose intime toute nuit, j'ai dit, mais si, il faut le faire en image, image arrêtée, donc pas comme un film, mais il faut construire des images comme ça, et essayer de, quand même de mettre une progression, parce que je me suis dit, sinon on va encore penser, tu es encore dans ton deuil, et c'est pour ça que j'ai fini le texte, effectivement, sur la rencontre. Mais l'architecture du livre, en fait, elle était quasiment depuis le début, plus ou moins elle existait. C'est un peu ça que j'ai essayé de faire.
Bravo, parce que bon, le texte là, sur la mort, ça parle à tout le monde. Quoi. Toute personne qui a perdu un être cher, c'est très émouvant. Hein.
Ouais. J'ai beaucoup été, beaucoup été aidé, beaucoup entouré, j'ai beaucoup fait lire. Ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup lu, puis je l'avais même à un moment, je le lisais tout haut pour voir les rythmes. Je trouve que je ne suis pas musicien, mais j'ai beaucoup écouté de musique dans ma vie. Et je me disais, il faut voir comment ça résonne aussi.
Oui, puis votre cette forme-là avec la musique, c'est magnifique. Hein. J'espère que vous aurez l'occasion.
C'est vrai que le texte, du coup, moi, je parlais de littérature tout à l'heure, ça fait très dès qu'on parle de littérature. Hein, voilà. Mais c'est vrai que la façon en fait, dont c'est écrit, il y a déjà le rythme. En fait.
Oui,
il y a déjà quelque chose de
très musical.
Et en fait, quand on a commencé à travailler, moi j'ai pris le texte, enfin en tout cas les extraits que Benoît avait choisis, puisque j'étais déjà dans sa lecture auparavant. Mais là, sur les extraits en particulier, j'avais vraiment un souci. Je voulais pas faire une disparité ou un cloisonnement entre je fais une musique et puis j'accompagne. Enfin, moi j'ai vu des tas de choses, des lectures accompagnées de musique. C'est très souvent, voilà, il y a une musique plaquée sur les mots. Et là, en fait, les textes, j'ai vraiment travaillé à partir de ces textes. Donc, en fait, je me suis fait un carnet, j'ai repris des expressions, moi, qui me touchaient. Alors, c'est vrai que je suis dans l'œil du soleil, par exemple, c'est vrai que ça m'a, voilà, c'est un truc qui m'a complètement bouleversé. Et à partir de ces mots-là, en fait, la musique est venue. Et même si, là, à midi, il y a beaucoup d'improvisation.
Et
donc ouais, vraiment le rythme du texte, il est. Enfin moi c'est ce qui me frappe. Hein. C'est possible. Enfin je vais pas. Benoît, mais c'est vrai que moi une des particularités quand même du texte, sa façon d'écrire, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la. Quand on lit, en fait, on a presque du mal à prendre sa respiration. C'est un truc comme ça, très, très lancinant et qui avance sans cesse. Quoi. On avance sans cesse dans l'histoire et on se prend des trucs au fur et à mesure. Je pense que ça, c'est une vraie qualité musicale. En fait, pour le coup. C'est vraiment quelque chose. Moi, je trouve que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait. Voilà, deux mois après le livre, on fait un dialogue, pas seulement une lecture, mais j'accompagne juste, mais on fait quelque chose de particulier. Et encore, avec le laps de temps qu'on a eu, on a fait mieux, mais je pense que c'est encore quelque chose qui se rendra fort encore davantage. Voilà.
Je pense aussi que ce livre fera date aussi, parce que là, ce qu'on a donné, c'est. Là, ce qu'on a donné, c'est beaucoup plus le texte lui-même, l'invention, la créativité. Mais il y a tout un autre côté qu'on n'a pas du tout rendu compte. C'est l'érudition, un parcours lié à des rencontres qui marquent la pensée, qui font des tournants dans une vie. Et il y a notamment des notes d'écrivains, tout le monde du mouvement féministe, qui sont peu connus en France encore, ou très connus dans des milieux très fermés, mais pas connus dans le milieu courant, et qui feront date parce que personne encore n'a remis dans un livre toutes ces notes, toutes ces références. Et je pense qu'on n'est pas loin d'une œuvre aussi universitaire, entre guillemets, parce que pour tous ceux qui cherchent un peu les courants de pensée dans les années 70, 80, 90, eh bien, on a des sources là, qui sont fort intéressantes, à mon avis. Et ça, on n'en rend pas compte, évidemment. Et alors, petite histoire, plus vous commencez le livre, davantage les notes sont importantes. Si vous terminez le livre, moins les notes sont importantes.
Oui, c'est une écriture. Alors, c'est très multiforme.
Ouais.
C'est complètement. Les 50 premières pages, c'est très. On est dans l'histoire, en fait.
Ouais.
L'histoire, la petite histoire dans la grande histoire.
Ouais, ouais.
Et puis d'un coup, ça devient très poétique. Il y a, voilà, il y a de la poésie, il y a de la musique, il y a, oui, de la sociologie, on peut presque dire ça. C'est vraiment très.
J'avais voulu le contextualiser. C'est-à-dire, au début, je me suis dit, cette histoire privée, et qu'est-ce qui va se passer ? Et je me suis dit, quand même, cette histoire privée, sans isoler des choses qui deviennent presque des statues, c'était quoi l'expérience d'une vie gay au XXe siècle ? Qu'a commencé, pour des gens comme moi, dans les années 60, c'était le début de ce qu'on a appelé plus ou moins le second féminisme. Et parce que c'est vrai qu'aussi, il faut savoir une chose, que c'est très très touchant d'ailleurs, c'est que quand même, au départ, le mouvement gay, il s'est appuyé sur... il est sorti presque de toutes les réflexions féministes. Et puis même chose, le féminisme, il y a eu une espèce de courant mainstream, et le lesbianisme, qu'on le décrive comme on veut, mais c'est aussi quelque chose que, du coup, tout d'un coup, c'est dit, mais les questions qu'on pose là, nous, on ne s'y retrouve pas. Donc les gens, ils se sont dit, maintenant, c'est à nous, on fait nos chemins, on fait. Là, je suis en train de lire un livre magnifique qui fait penser à ça, d'ailleurs, qui est un livre de Cathy Barras, qui a été publié chez XE. C'est quelque chose... Mais alors là, on est dans le moment présent. Mais c'est un livre magnifique, magnifique, qui rappelle quelqu'un que j'ai bien connu, qui s'appelle Michelle Cause, qui a été une immense traductrice, une immense lesbienne politique, une femme que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup, puisqu'elle était l'amie de ma maman. Et j'ai énormément profité, énormément appris. J'ai beaucoup appris aussi de l'écriture, parce qu'elle m'a beaucoup, beaucoup... C'était quelqu'un qui écrivait énormément. Et ça m'a énormément aidé, énormément porté, libéré aussi, parce que c'est ça qu'on apprend quand on écrit. Il faut oser, il faut se laisser aller. Et après, la vie aussi, ça va. Parce que c'est vrai que quand vous faites ça, eh ben, on se libère. Parce qu'on pense... Mais ça ne veut pas dire qu'on a raison. Moi, je pense, c'est-à-dire, je sais très bien, il y a des choses que je crois pour moi très vraies, mais je ne les imposerai pas aux gens. Simplement, moi, je sais qu'il y a parfois des choses qui paraissent un peu atypiques ou un peu étranges, mais il faut peut-être, comme on dit, suspendre le jugement, et puis regarder dans sa vie aussi. Et puis faire attention qu'on est soi-même, parfois, très capable de devenir bête et sot. Parce que on peut très bien tout d'un coup prendre des positions sans se rendre compte. C'est très très important ça pour moi. Moi ça m'a toujours et je fais très attention, je sais que ça m'arrive comme tout le monde.
C'est vrai dans ton livre, ce qui est bien, c'est que quand tu parles de
vas-y Annie.
Alors, ce qui est bien dans ton livre, là, c'est quand tu parles, évidemment, il y a tout à côté philo-politique, tout le mouvement, le phare, tout ça, et tu reparles à certains moments de choses, quand tu as fait la publication avec Jean-Luc du Pédéraste, c'est là, tu parles que ça avait créé quand même des remous, qu'il y a des gens qui ont été très violents, et tu es très libéré de tout ça. Et ça, c'est la position, elle est magnifique. Tu ne reviens pas brutalement là-dessus, tu ne délayes pas.
Ouais.
C'est magnifique. Et hop le Morvan, hop la suite, ouais. Hop l'amour. Et ça, c'est ce que tu viens de dire. Ça m'y fait penser. C'est évoqué, c'est dit. Il y a des notes, beaucoup de notes. Mais alors, rien que les notes en fait, des pierres à chaque fois. Moi, ça m'a emmené une nuit à regarder Lionel Socaz, machin. Tu lèves des pierres. J'ai repensé à moi quand je disais, ouais. Évidemment, Toclas et Nathalie Barnet et tout ça. Tu as des notes
Voilà, on passe une vie à relire. Mais ouais, t'es libéré.
Et parce que je pense aussi, bah, je vais vous dire, je connais Agnès depuis 20 ans. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis Agnès voilà. Comme ça. Mais il y a quelque chose, Agnès, qui m'a... Parce que c'est une chose dont on a beaucoup parlé avec les copains quand j'écrivais. Ils étaient souvent réticents sur « t'es trop cultivé, c'est trop compliqué ». Mais j'aurais dit « mais non, c'est au contraire, on n'est pas censé savoir tout ». Et moi, je trouve que c'était une question d'humilité, puis une question de respect des autres, bah, de leur donner un peu les clés de moi, pourquoi j'avais pensé les choses comme ça, à travers des références que j'avais, à travers des choses que j'avais cogitées en groupe avec des garçons ou dans des mouvements et tout. Et je me suis dit, il faut quand même un peu expliquer le background. Parce que comme ça, sinon, ça paraît presque... Bon, ben moi, je suis très cultivé et je vais vous apprendre les choses. Or, c'est pas du tout comme ça que je l'ai pensé. Et pour ce que Agnès raconte à propos de... C'était vrai que c'était d'un endroit en pleine nature perdue. On s'est retrouvé dans un village de 80 personnes. Et c'est là qu'on a fait venir quasiment les gens du guépier à l'époque et les gens de masque. Et on a fait un week-end magnifique où on a fait une lecture d'un livre qui aujourd'hui peut-être... Enfin, qui à l'époque nous avait beaucoup marqué parce que c'était la première fois qu'on lisait un texte sur les triangles roses. On l'a lu dans ce petit village de 80 personnes. On était une quinzaine dans la maison. On a passé 3 jours extraordinaires. Il y avait un des garçons qui a été très important au guépier, qui s'appelle Franck Arnal, qui était très mode, on va dire, Jean-Paul Gaultier. Ce village de 80 personnes, mais c'était quelque chose... Je n'ai jamais senti l'homophobie dans cet endroit. Et la personne qui m'a logé, dont j'ai fait un portrait, qui est quelqu'un à qui je téléphone encore depuis... Aujourd'hui encore, il n'y a pas longtemps... Elle a 89 ans et il n'y a pas longtemps, elle m'a dit « Mais Benoît, bien sûr, moi j'étais comme ça, mes parents m'ont toujours appris « Accepte les autres ». Et c'est vrai que ça a toujours été quelque chose car je n'ai jamais, jamais, jamais senti rien de cette personne. Une affection, une gentillesse, et puis un apprentissage de la vie encore, sur la cuisine beaucoup, parce que c'était le Périgord, sur le jardin, alors là, en pagaille, mais sur la vie. Simplement comme ça, d'une acceptation assez unique. Et c'est vrai que moi j'avais trouvé ça touchant que quand même dans cet endroit, c'était pas du tout pour se retirer, c'était pas du tout pour dire je tourne le dos au monde parisien et tout ça, c'était trouver le temps de réfléchir. Puisque quand je suis parti, le fameux enfant et le pédéraste qui m'a tellement, pour lequel j'ai beaucoup été étrié, mais c'est pas grave. Mais j'avais déjà commencé à travailler. Donc, je suis parti avec quelque chose. Et en fait, c'est là que j'ai pu l'écrire, parce que j'avais pris du recul. Et puis, c'est pareil, c'était un livre de notes. C'est encore... je trouve que l'académisme, ça a du bon aussi. La vie, c'est bien, mais l'académisme, bon.
Merci aussi.
C'était une grosse question quand on faisait ces comités de lecture au cours de ton écriture. On se rassemblait pour... lire les textes et puis dire un peu nos impressions. Et c'était une grosse question de fait, les notes, parce que ce qu'on sentait bien, c'était que... Ce qu'on sentait bien, c'est... Je pense que le marche.
Deux, trois.
Voilà. Bon, ce qu'on sentait bien, c'était surtout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois, il y a des notes qui étaient des pierres énormes, enfin, c'était une vie entière qu'il faut relire, quoi. Et alors, ça ouvre des perspectives tout à fait... énorme, et c'était ça qu'on remettait en cause beaucoup plus. Est-ce qu'il fallait revoir ça un peu ou corriger, refaire? Et puis en fait, on s'est dit que c'était quand même intéressant de faire comme ça, parce que d'abord c'était le style de Benoît et qu'on voulait pas trop y toucher, on n'avait pas un peu touché d'ailleurs, mais surtout ça permettait après tout d'avoir des références, point. Et ceux qui ont envie de faire le voyage, ils font le voyage.
Mais voilà, le fasciner par Benoît, profiter qu'il soit avec nous aujourd'hui. Et je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est certainement la fin de la pause.
Hein,
pour tout le monde. Voilà.
Ouais.
On va, ben, merci mille fois d'être venu, merci beaucoup. Merci à vous, merci Imani de Mars. On a hâte de vous retrouver avec un nouveau texte. Super.